Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous parle à tous, je crois, les contes merveilleux. On va essayer de voir ensemble ce qui fait leur force entre la tradition et puis comment ils résonnent encore aujourd'hui. Alors pour ça, on s'appuie sur une analyse, une source assez riche qui décortique un peu les caractéristiques de ces récits. Elle prend notamment l'exemple du petit chaperon rouge, que tout le monde connaît, et ses variations assez étonnantes à travers le monde. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ces histoires, souvent courtes, ce genre narratif particulier, arrivent comme ça à traverser les âges, les cultures. Bon, alors allons-y. Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien, ces histoires ?
Alors, ce qui est vraiment frappant d'emblée, je trouve, c'est leur universalité incroyable. Ces récits, ils voyagent, ils s'adaptent, et ils trouvent un écho dans des cultures, mais super différentes. La source qu'on a, elle donne un exemple vraiment saisissant. Bien avant que Charles Perrault publie son petit chaperon rouge, c'était en 1697, eh bien, une histoire très proche, une fillette, un loup déguisé, parfois c'est un tigre d'ailleurs, ça s'appelait Jonquio Tonroi, ou Comte de Grand-Mère Tigre. Et ça circulait déjà dans la province du Henan, en Chine. Ça montre bien comment un même archétype narratif, c'est-à-dire un modèle d'histoire, un personnage un peu fondamental, partagé, comment ça peut émerger ou être repris dans des contextes culturels très très loin les uns des autres.
C'est fascinant ça, cette idée d'archétype partagé. Mais attends, est-ce que ça veut dire que l'histoire chinoise et celle de Perrault, elles sont quasi identiques? Ou est-ce que justement c'est les différences qui nous en apprennent plus sur la manière dont chaque culture se l'approprie, ce conte?
Ah, mais c'est une excellente question, ça. Et c'est exactement là qu'on touche à la subtilité de cette universalité. Non, elles sont pas identiques. La version chinoise, par exemple, elle peut avoir des différences assez nettes dans les personnages, les péripéties ou même la morale qui est derrière. Le loup peut être un tigre, comme je disais, la fin est parfois plus sombre. Au contraire, elle peut montrer une héroïne beaucoup plus active, plus maligne. Ces variations, elles montrent comment chaque culture va infuser ce schéma de base avec ses propres valeurs, ses peurs, ses leçons à elle. Donc l'universalité, c'est pas du tout l'uniformité, Et ça, ça nous amène aussi à leur intemporalité, forcément.
Exactement, oui. Parce que cette capacité d'adaptation, elle est sûrement liée au fait qu'ils traversent le temps aussi bien. La source nous rappelle cette très longue période où tout ça s'était transmis juste oralement. On imagine bien les compeurs de veillée en Europe ou les griots en Afrique. Ils ne faisaient pas que réciter une histoire apprise par cœur, ils la recréaient à chaque fois en fait. Ils l'ajustaient à leur public du moment. Et c'est cette fluidité de la parole qui explique aussi pourquoi tant de ces contes fondamentaux sont anonymes. Ils appartiennent à tout le monde, quoi, patrimoine collectif, pas à un auteur précis.
Tout à fait. Et puis, il y a le passage à l'écrit. Ça, c'est une étape super importante. Des collecteurs comme Perrault ou les frères Grimm en Allemagne, ils ont un peu figé certaines versions de ces contes oraux. Ils leur ont donné une forme stable. Et ça a beaucoup aidé à leur diffusion massive, évidemment. Mais la vitalité du conte, elle ne s'arrête pas là. La source mentionne aussi des auteurs plus récents, comme Marcel Aimé, par exemple, qui ont consciemment écrit des contes qu'on pourrait dire « modernes ». Ils reprennent les codes du genre, le merveilleux, tout ça, mais ils les ancrent dans des préoccupations plus contemporaines, ou alors ils jouent avec nos attentes de lecteurs. C'est bien la preuve que le genre, il est toujours vivant, toujours pertinent.
Oui, et c'est vrai que ce qui est frappant, comme le suggère notre source, quand on lit des recueils de contes qui viennent d'un peu partout, c'est de voir à quel point, malgré les variations culturelles dont on parlait à l'instant, les thèmes de fond, ils reviennent tout le temps. La peur d'être abandonné, la rivalité entre frères et sœurs, la quête d'identité, affronter le danger. En fait, ces histoires, elles parlent de nous, de l'humain.
Précisément. Et au-delà de juste refléter ses préoccupations, ils ont très souvent une fonction morale, comme le souligne bien la source. Attention, ça donne pas toujours une leçon super explicite, avec une petite maxime à la fin, comme on voit dans certaines fables, mais c'est à travers les épreuves du héros ou de l'héroïne, ses succès, ses échecs parfois, que le récit nous invite à réfléchir. Prenons le petit chaperon rouge. Sa naïveté façon loup déguisé, ça nous parle des dangers de la crédulité sans avoir besoin de l'écrire en toutes lettres, tu vois. C'est une forme de sagesse qui est transmise par l'expérience narrative en quelque sorte.
D'accord, donc si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on vient d'explorer, les contes, c'est pas juste des petites histoires pour enfants, loin de là. Ce sont des récits courts, oui, mais hyper denses. Ils sont universels, capables de passer les frontières des cultures tout en s'y adaptant. Ils sont intemporels, ils survivent au siècle, d'abord par l'oral, puis par l'écrit. Et ils portent souvent une dimension morale, même si elle est implicite,
qui touche à des préoccupations humaines vraiment fondamentales et partagées.
À travers le temps et les cultures. Sa force, elle réside peut-être justement dans cette combinaison unique de familiarité avec les archétypes et de flexibilité culturelle.
À voyager à travers les époques, les médias de l'oral à l'écrit, puis au cinéma, etc. Comment est-ce que les nouvelles formes de narration actuelles, le numérique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux même, comment est-ce qu'ils influencent aujourd'hui la transmission et la réinterprétation de ces archétypes ancestraux? Est-ce qu'on est en train de voir naître les contes du futur sous nos yeux? Voilà, c'est une piste à explorer, je pense.